Voilà, écoutez, aujourd'hui, j'aimerais commencer avec quelque chose, j'aimerais vous montrer quelque chose. Alors, beaucoup de vous savez ce que c'est, mais beaucoup ne savent pas. C'est un trésor qu'on m'a donné il y a des années en arrière et que je prends chaque fois que je donne un tour de la réforme et j'aimerais vous le montrer. C'est une Bible. C'est une Bible qui date de 1608. Elle est en parfait état. Mais alors, tenez-vous pour le nom de cette Bible. Est-ce que vous êtes prêts? The Geneva Bible. Et je l'ai dit en anglais, pas en français. Je n'ai pas dit la Bible de Genève, j'ai dit The Geneva Bible. Pourquoi? Parce que lors de la réforme ici à Genève, il y a 500 ans en arrière, un des réfugiés qui est venu à Genève s'appelle John Knox, K-N-O-X. Et John Knox était écossais. Il est venu à Genève et pendant 3 ans, il était donc viré de l'Écosse, pendant 3 ans il était à Genève et il était pasteur des puritains anglais dans l'auditoire de Calvin qui est juste à droite de la cathédrale pendant 3 ans. Et pendant qu'il était là pendant 3 ans, il s'est dit « qu'est-ce que je pourrais faire de mon temps ?» Et il s'est dit « alors nous avons des Bibles en anglais, mais ce qui n'existait pas à l'époque, c'était une Bible en anglais, attention, avec les notes marginal. Si vous avez par exemple une Bible MacArthur, vous avez la partie de la Bible qui est inspirée, et ensuite MacArthur disait toujours en dessous de la ligne, mes notes c'est pas inspiré, d'accord? Ben voilà, c'est un peu pareil. Ça c'est la première Bible d'étude en anglais de l'histoire du monde. 1560, ça c'est 1608, donc elle a environ 40 ans après l'original. Et je vous montre cette Bible parce que le gars qui me l'a donné, c'est un chrétien américain qui avait fait un tour il y a des années en arrière. Il m'a dit « John, je collectionne les Bibles, je t'en donne une. » Il me l'a donné, gratuit. Il a dit « montre-la aux gens qui font ces tours de la réforme pour qu'eux sachent qu'à l'époque, si tu possédais cette Bible, cela pourrait te coûter ta vie. Pourquoi ? Parce que en ayant une Bible maintenant en ta langue avec des notes marginales pour expliquer ces textes, tu étais une menace directe à l'Église catholique parce que maintenant tu pouvais vérifier les doctrines catholiques qui étaient l'Église de l'époque et voir si c'était juste ou si c'était faux. Et c'est pour ça que l'Église s'est tournée violemment contre les protestants parce qu'ils ne voulaient pas que la Bible démonte leur système. Alors voilà, donc je vous la donne parce que c'est en fait le but. Le but aujourd'hui, c'est, et c'est ce qu'on m'a demandé de prêcher, la Bible est-elle réellement fiable? Alors, je pense que c'est une question importante. Si à Genève, il y a 500 ans en arrière, on a créé une Bible qui s'appelle la Bible de Genève, the Geneva Bible, apparemment, quelqu'un pensait qu'elle était inspirée. Alors, à moi maintenant, dans les quelques minutes que nous avons, de vous prouver, de vous montrer que cette Bible, enfin, la parole de Dieu, la Bible est vraiment inspirée et la parole de Dieu. Donc ça, c'est mon objectif. Et tout à l'heure, vous pouvez venir. Ah ouais, vous pouvez la passer. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez l'ouvrir, regarder tout ça. Déchirez pas une page pour la reprendre chez vous. Ça, ce serait mieux. Voilà. Donc, mais j'entendrai et puis je viendrai vous chercher. Vous en faites pas, d'accord? Voilà. Donc, la Bible est-elle réellement fiable? Alors, comme je viens de le dire, la Bible a toujours été attaquée. Beaucoup de gens sont morts pour ce livre, donc ce livre est important. Et s'ils sont morts et la Bible n'est pas inspirée, bah, finalement, ils sont morts en vain, ces gens. Et si la Bible n'est pas inspirée, nous faisons un culte ce matin au Seigneur. À cause de l'information qui est dans la parole de Dieu, bah, si c'est faux, bah, on est un petit peu mal barré, je dirais. On est en train de faire un truc qui est une grande perte de temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Bible, déjà, elle-même prétend qu'elle est la parole de Dieu, d'accord? Vous connaissez ce texte classique, dans 2 Timothée 3,16, il dit ceci, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Bien que ce verset pointe vraiment à l'Ancien Testament, il y a beaucoup de manières de montrer que la Bible dit d'elle-même qu'elle est inspirée, soufflée de Dieu, qui veut dire que Dieu a vraiment prononcé, donné ses paroles aux auteurs pour que ce que nous ayons dans les manuscrits originaux est vraiment la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc ce que j'aimerais faire ce matin, c'est de vous prouver que la Bible est fiable, et ça on va le faire par 5 raisons. 5 manières de pouvoir vous prouver que la Bible est inspirée. Alors premièrement, on attaque tout de suite, on peut prouver que la Bible est fiable, premièrement, par son exactitude historique. Son exactitude historique. Le célèbre archéologue Dio Kinnaman a dit ceci, et je cite, « Parmi les centaines de milliers d'objets découverts par les archéologues, aucun n'a jamais été découvert qui ne contredise ou qui refute ni même un mot, une phrase, une clause, ni même un paragraphe de la Bible, mais ces découvertes confirment la fiabilité du récit biblique. » Alors ceci est important, car il y a moins d'un siècle, les agnostiques, dont ceux qui disent que l'au-delà est inconnaissable, et les libéraux disaient ouvertement que la Bible est remplie de fautes historiques. C'est ce qu'ils disaient. Puis avec les années et avec l'arrivée de la science de l'archéologie, eh bien c'est comme si avec chaque pelle de terre, l'exactitude historique de la Bible se faisait confirmer. Josh McDowell, c'est un apologète, un de mes préférés, Josh McDowell, donne quelques exemples. Premièrement, il dit celui-ci, Sir William Ramsay, donc, était un des plus grands géographes qui n'ait jamais vécu. Ramsay s'appelait. Il est parti de l'Angleterre au début du siècle dernier pour faire une étude topographique de l'Asie mineure du premier siècle. Alors, tellement était-il respecté, cet homme, que des scientifiques et des érudits de toute l'Angleterre sont allés au port pour le voir partir. Il a passé 30 ans en Asie mineure pour y faire une carte topographique. Imaginez, 30 ans pour faire une carte, un plan. Monsieur Ramsay était d'une école allemande dont les convictions étaient que le Nouveau Testament était un document du deuxième siècle après Christ. Il pensait que les documents qu'on avait étaient deuxième siècle, pas premier siècle, donc plus proche de Christ, et donc pour lui un document qui ne pouvait être historiquement fiable. Après 7 ou 8 ans en Asie mineure, Sir William Ramsay avait épuisé toutes les ressources de matériel du premier siècle et il est devenu très frustré dans ses recherches. Alors un de ses collègues lui a suggéré, tu sais, tu devrais consulter le Nouveau Testament, la Bible, et surtout les écrits de Luc dans le livre des Actes. Je crois que vous êtes en train d'étudier le livre des Actes, voilà. Alors Ramsay a immédiatement rejeté cette idée. Pourquoi ? Car il disait que c'était un document du deuxième siècle, c'est ce qu'il croyait, après l'ère de Christ, et qu'ainsi ne pouvait être aucun cas exact sur les détails du premier siècle. Il a même dit, et je le cite, « Luc est un livre imaginaire, un récit très colorié du christianisme primitif. » C'est du n'importe quoi. Alors des années encore se sont écoulées. Il est devenu si frustré qu'il a enfin décidé de consulter le livre des Actes écrit par Luc. Et soudainement, tout a changé pour cet homme. Lui qui doutait l'historicité de ce livre a fait la déclaration suivante. Je cite, « Luc est un historien de premier rang. Non seulement ses affirmations sont-elles vraies et fiables, mais cet auteur devrait être placé au rang des plus grands des historiens. L'historique de Luc dans son évangile et dans le livre des Actes ne peut être surpassé dans sa fiabilité. Il est possible de pousser les mots de Luc à un degré au-delà de tout autre historien et Luc subsiste les traitements critiques les plus rigoureux. » Mais allez voir, là c'est un changement d'opinion total. Alors, qu'est-ce qui l'a convaincu ? Il disait avant ses recherches que les documents ne pouvaient pas être fiables, et après les recherches, que les documents étaient les plus fiables au monde. Quelque chose s'est passé. Je vais vous donner 2 exemples. Si vous avez vos Bibles, ou bien je vais vous montrer, Actes 18, 12 est juste un des exemples qui a convaincu cet homme, d'accord ? Actes 18, 12, il dit ceci, Luc dit dans ce verset la chose suivante, pendant que Gallion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal. Okay. Alors, c'est un verset incroyable, d'accord, pour la raison suivante. Luc utilise un mot ici, proconsul, comme titre pour ce gars Gallion. Eh bien, dans toute la littérature historique, Gallion, qui était apparenté au grand philosophe romain Sénèque, un homme dont Sénèque a beaucoup écrit, dont un homme parfaitement historique, c'est un homme historique, Gallion, Il n'y avait aucune description de lui nulle part dans l'histoire comme quoi il avait été proconsul et certainement pas proconsul de la Caille, ce qui est une région en Turquie. Alors, qui pensez-vous que les critiques ont cru ? Luc ? Mais bien sûr que non. Ils ont cru les critiques contemporains qui disaient « Mais le Nouveau Testament, c'est du n'importe quoi. » Et puis un jour, tenez-vous bien, ils ont découvert les inscriptions de Delphes. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller à Delphes, en Grèce, et j'ai vu dans le musée de quoi ils parlaient. Donc tout ça, ça existe, hein, c'est archéologiquement juste. Et voici ce qu'on peut lire sur une tablette découverte à Delphes. « Comme Lucius Julius Gallion, mon ami, est le proconsul d'Achaïe. » Waouh ! Maintenant, Ramsay a dit « Une minute, s'il vous plaît !» Comment quelqu'un qui écrivait au IIe siècle pouvait-il être si exact et précis sur un détail si minuscule sur un homme du Ier siècle ? Il était perplexe. Tout d'un coup, Luc s'en sort assez bien là. Prenons un deuxième exemple. Acte 17, 6, que vous connaissez tous par cœur, bien sûr, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr, d'accord. Acte 17, 6. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Ah, j'ai une petite gaffe là. « Venus ici et Jason les a reçus. » Alors, le mot pour magistrat en grec est le mot « polytarque ». Polytarque. Luc utilise donc le mot polytarque pour décrire les autorités civiles à Thessalonique. Mais pour Ramsay et d'autres, ceci était une chose absurde. Le mot polytarque en grec n'est trouvé nulle part, ni même dans le grec classique. Ce mot n'est trouvé absolument nulle part. Mais vraiment nulle part. C'est un mot inconnu dans l'histoire. Alors, qui pensez-vous que les critiques ont cru lorsqu'ils ont lu ça? Ils se sont dit, il dit n'importe quoi, Luc. N'importe quoi. Ils étaient convaincus que Luc avait fait une grosse erreur. Jusqu'au jour où un archéologue était à Thessalonique et il a trouvé cette arche. Ça s'appelle pas une arche, c'est l'arc de Galère, ça s'appelle. L'arc de Galère. Et sur cet arc, il y a une inscription utilisant le mot polytarque. Et voici ce qu'on trouve, trouvé sur l'arc de Galère à Thessalonique. Alors, puisque nous sommes dans le monde moderne, parce que j'ai cette information, j'ai depuis pas mal de temps, je me suis dit, attends, mais je me demande si c'est vraiment vrai tout ça. Des fois, je raconte des trucs et je me dis, mais John, est-ce que tu racontes vraiment des trucs vrais ou est-ce que c'est des bobards tout ça? Je sais pas si vous êtes... Tu fais, ça t'arrive aussi? D'accord, ok. Alors, je suis allé consulter, tenez-vous bien, ChatGPT, pour être moderne, d'accord? Pour voir si ce truc, c'est juste. Voici ce que ChatGPT, et ChatGPT n'est pas né de nouveau, d'accord? Il n'est pas chrétien, il ne connaît pas le Seigneur, ChatGPT, je ne sais pas qui est derrière ChatGPT. Mais voici ce qu'il dit. Le terme Polytarque est inscrit sur le monument et des inscriptions en pierre à Thessalonique et dans une autre ville, etc. Cela revêt d'une importance historique. C'est ChatGPT que je suis en train de citer. Car le titre Polytarque apparaît dans le livre des Actes, dans ce verset, où Luc fait référence au Polytarque de Thessalonique. Pendant longtemps, les érudits ont pensé que Luc avait peut-être utilisé un terme incorrect, car Polytarque n'est pas courant dans la littérature grecque classique. Mais la découverte de l'inscription sur l'arc de Galère a confirmé l'exactitude historique de la terminologie utilisée par Luc. Donc, oui, parce que ChatGPT, à la fin, vous donne une petite conclusion. Donc, oui, le mot Polytarque apparaît sur l'arc de Galère à Thessalonique, fournissant ainsi une preuve archéologique qui correspond au récit biblique des Actes. Alléluia! Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial, quoi. C'est tellement facile à vérifier, tous ces trucs. Incroyable. Alors Ramsay, il a conclu que Luc était un historien des plus précis et des plus fiables de toute l'Antiquité. Mes amis, comme Ramsay, je pense que ce livre, la Bible, est non seulement fiable, mais qu'il est vraiment la parole inhérente de Dieu. Mais ça, c'est que la première preuve. J'ai deux exemples assez intéressants, je trouve. Alors, la fiabilité de la Bible peut être démontrée, deuxièmement, par son exactitude scientifique. Son exactitude scientifique. Alors, on est d'accord, la Bible n'est pas un manuel scientifique. D'accord, on est d'accord. Non, c'est essentiellement une révélation de Dieu à l'homme et donc pas un manuel scientifique. Il y a néanmoins des déclarations étonnantes qui font quand même réfléchir dans la parole de Dieu au niveau scientifique. Alors, premier exemple, c'est la sphéricité de la Terre. Vous vous rappelez sans doute que pendant des siècles, on croyait que la Terre était plate. Comme un disque entouré d'une rivière appelée Océanus. On disait que si tu étais assez fou de naviguer à travers les piliers d'Hercule, qui aujourd'hui est le passage de Gibraltar, que tu tomberais dans le néant. Vous avez peut-être vu des photos comme ça, il y a une sorte de mer et tout. Je tombe et on tombe quelque part. Cette idée du monde dura longtemps. Cette conception du monde plate était populaire depuis les années 1500 après Jésus-Christ, jusqu'à que le compas soit inventé au 15e siècle. Et que cette thèse d'un monde sphérique soit réellement prouvée par les voyages de Christophe Colomb et Magellan. Écoutez, mes amis, pendant 1500 ans, ils se sont trompés si seulement ils avaient lu la Bible. Si seulement ils avaient lu la Bible. Pourquoi est-ce que je dis ça? Car 800 ans avant Jésus-Christ, donc 2300 ans avant la confirmation que la Terre était ronde, Ésaïe avait dit quoi? Ah non, j'ai pas mis le verset. Ah ben non, parce qu'il est dans Ésaïe 40. Je n'ai pas mis le verset, je vais vous le lire, d'accord? Ésaïe 40. Mais oui, j'ai une. Ah oui, il est là que je suis bête. Celui qui est assis au-dessus du. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ça fait quand même réfléchir tout ça. Mais regardez. La suspension de la terre dans le vide. Vous savez, mon épouse m'a aidé à corriger toutes les fautes de français ce matin, mais je crois avoir envoyé le mauvais fichier, parce qu'il y a des fautes. Alors excusez-moi, tout est parfait, mais là, je me suis trompé. Première fois de ma vie que je fais ça. Non, pour l'instant, pas de faute. Je crois qu'il y en a une ou deux. Je crois que l'œil de mon épouse a vu ces fautes, d'accord. Mais pas vous, parce que... Voilà. Alors bref, non, parce que regarde, la suspension, le P là, il n'est pas bon, tu vois. La photo doit être plus basse. Mais bon, ça, c'est un petit problème technique, d'accord? Alors, la suspension de la Terre dans le vide. Regardez, c'est vraiment intéressant. Alors, pendant des siècles, une des autres théories les plus avancées à propos de notre planète était non seulement le fait que la Terre était plate, mais qu'elle était fixée sur le dos d'une tortue géante qui nageait lentement au travers d'une sorte d'océan cosmique. Le fait que le monde flottait non attaché dans l'espace fut découvert par Sir Isaac Newton en 1687, si seulement ils avaient lu la Bible. Car Job, l'auteur le plus ancien de toute la Bible, qui écrivait en 1500 avant Jésus-Christ, donc 3187 ans avant la découverte de Sir Isaac Newton, avait dit ceci. Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je vois des trucs comme ça, je me dis, c'est trop génial, la Bible. C'est vraiment génial. C'est très concret. C'est très noir et blanc. Moi, j'aime bien ça. D'accord? Alors, je vais vous donner un troisième exemple. Alors, il est vraiment intéressant, celui-là. Ils sont tous intéressants. C'est sur la circoncision. C'est pas pour faire rire, c'est vraiment vrai. D'accord? En 1946, le journal de l'Association médicale américaine a publié un article donnant les raisons pour lesquelles, écoutez, il est recommandé de circoncire les nouveau-nés mâles le 8e jour, si on les circoncit. Je cite, « Les nourrissons sont particulièrement susceptibles à l'hémorragie entre le 2e et le 5e jour de vie. Pourquoi ? Parce que la vitamine K, cet élément qui aide la coagulation du sang n'est pas formée par le corps humain jusqu'à entre le 5e et le 7e jour. Une autre substance qui est nécessaire à la coagulation du sang est le prothrombin. Aujourd'hui, nous savons qu'un enfant de 8 jours a plus de prothrombin que n'importe quel autre jour de sa vie. Ainsi, nous constatons qu'après les considérations évoquées sur la vitamine K et sur le prothrombin, que le jour parfait pour effectuer une circoncision est le huitième jour. Ça, c'est ce que le corps médical aujourd'hui nous dit. Le huitième jour, c'est le jour parfait. Eh bien, si seulement ils avaient lu la Bible, enfin, si seulement les gens aujourd'hui lisaient un petit peu la Bible, ils devraient être ici ce matin pour écouter tout ça, parce que c'est quand même intéressant. Regardez, Genèse 17, 9 à 12. Genèse 17, 9 à 12, je lis, Dieu a dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous, vous circoncirez et ce sera un signe de l'alliance entre moi et vous à l'âge de 8 jours. » 8 jours. La Bible savait tout le long, sans pour autant donner les raisons médicales, pourquoi il était important de circoncire les enfants mâles à 8 jours. De nos jours, on n'attend plus le 8e jour pour circoncire un bébé, car on injecte en lui de la vitamine K dès sa naissance. Super intéressant. Vous êtes d'accord avec moi, ça va? 3. La fiabilité de la Bible peut être démontrée, troisièmement, par son exactitude prophétique. Alors là, mes amis, nous passons à une section qui, pour moi, enfin, j'espère qu'elle va vous stupéfier comme elle m'a stupéfié ou comme elle me stupéfie. Stupéfie. Wilmington, un commentateur, dit ceci, et je cite, l'un des tests les plus exigeants auxquels on peut soumettre une religion, c'est sa capacité de prédire l'avenir. Dans ce domaine, comme dans tous les autres domaines, la Bible est sans pareil. Sans pareil. Je ne sais pas si vous connaissez Deutéronome. Je pense que vous connaissez Deutéronome. 18, peut-être aussi, versets 20 à 22. Je lis. Deutéronome 18, 20 à 22 par rapport au prophète. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, écoutez bien, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être, diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole de l'Éternel qui n'aura point dite? Comment savoir? Verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Donc, la Bible est super claire là. Elle dit, tu veux être prophète? Ok. Tu veux dire que le Seigneur te parle et que tu as des prophéties? Ok, pas de problème. Moi, je pense qu'on devrait réappliquer ça aujourd'hui. Pas de problème. Une gaffe, t'es lapidé, on te tue. Je vous garantis que toutes les prophéties qu'on entend aujourd'hui, ça changerait beaucoup. Si la conséquence de se tromper une fois était Deutéronome 18, ça changerait la donne dans le monde évangélique aujourd'hui, je pense. Voici la loi de Dieu par rapport à ça. Donc un prophète, en fait, écoutez, n'avait pas le droit à l'erreur. Aucune prophétie erronée, jamais, sinon la mort. Alors c'est un fait connu que parmi les 6 livres dans le monde qui se proclament ou qui ont été proclamés être l'Écriture, la question de la prophétie spécifique est cruellement absente. Vous ne trouverez pas, écoutez, de prophétie spécifique concernant des événements loin dans l'avenir dans les écrits de Bouddha, de Confucius, de Mohammed et bien d'autres. Cependant, la Bible est absolument unique en ce sens. Dans l'Ancien Testament seul, il y a plus de 2000 prophéties spécifiques qui ont déjà été accomplies. Rien d'autre est comparable dans toute l'histoire aux prophéties de la Bible. Certains pourraient rétorquer, ces soi-disant prophéties ne sont-elles pas plutôt des suppositions chanceuses ou des vagues généralités qui pourraient être interprétées comme des prophéties qui ont été accomplies? Alors moi je vais répondre, à vous de juger. À vous de juger, je vais vous donner 2 exemples et vous me dites si c'est un coup de peau ou si c'est vraiment prophétique. Et le premier, c'est la prophétie sur Tyr. La prophétie sur Tyr. Alors juste pour situer ça, Tyr c'est là. C'est juste au nord d'Israël, d'accord? Et je reviens là à l'image de Tyr. Alors j'aimerais vous lire Déjà, la prophétie qui se trouve dans Ézéchiel, à partir du, dans le chapitre 26, je vais vous lire quelques versets, d'accord? Écoutez. Ézéchiel 26, verset 2. Fils de l'homme, parce que Tyr dit sur Jérusalem, aha, elle est brisée, la porte des peuples, on se tourne vers moi, et je me remplirai, elle est déserte. Verset 4. Elles détruiront les murs de Tyr. Maintenant, c'est voilà, Tyr, c'est une mauvaise ville, Dieu va la juger, voici comment il va la juger. Ils détruiront les murs de Tyr, elles abattront les tours, je t'en raclerai la poussière et ferai d'elle un rocher nu. Elle sera dans la mer, un lieu où l'on étendra des filets. Car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Elle sera la proie des nations. Verset 7. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'amène du septentrion contre Tyr, Nebuchadnezzar. Il nomme la personne qui va venir, roi de Babylone, les rois des rois avec des chevaux, des chars et des cavaliers et une grande multitude de peuples. Verset 9. Il dirigera des coups de son bélier contre les murs et il renversera des tours avec ses machines. Verset 12. On enlèvera tes richesses, on pillera tes marchandises, on abattra tes murs, on renversera tes maisons de plaisance et l'on jettera au milieu des eaux des pierres, de bois et de poussière. Et finalement, le verset 14, « Je ferai de toi un rocher nu, tu seras un lieu où l'on étendra les filets, tu ne seras plus rebâti. » Résumé, cette prophétie dit que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, s'empara de la ville. D'autres nations, une grande multitude de peuples, selon le verset 16, se rejoindraient à lui pour détruire la ville. La ville serait rasée et nivelée, lisse, comme le sommet d'un roc, elle deviendrait un lieu où les pêcheurs étendront leurs filets. Ces pierres et ces bois de charpente seront jetés dans la mer et la ville ne sera jamais reconstruite. Jamais. Alors, qu'en est-il? Bien, Ézéchiel a écrit son livre en 590 avant Jésus-Christ. 4 ans plus tard, en 586, Nebuchadnezzar encercla Tyr et l'assiégea pendant 13 ans. C'est historique. À la fin de ses 13 ans, il attaqua la ville, elle a détruit et détruisit les murs et les tours exactement comme Ézéchiel l'avait prophétisé. Mais alors, Nebuchadnezzar a finalement pénétré à l'intérieur de la ville, mais il fut surpris de trouver aucun butin. Donc il a gagné, si on veut, mais il n'y avait pas de butin. Pourquoi? Parce que les habitants avaient tout déplacé sur une petite île qui se trouvait à 1 kilomètre environ de la côte. Donc, Nebuchadnezzar était découragé, il s'est dit, bon, ils sont partis, on a conquis la ville, mais ils sont sur l'île, impossible d'aller les vaincre là-bas, donc je rentre chez moi, bredouille. Nebuchadnezzar. Donc il est rentré chez lui, et cette nouvelle communauté a fleuri sur l'île pendant 250 ans. Problème. Ceux qui regardaient ces prophéties disaient, mais seule une partie de la prophétie d'Ézéchiel venait d'être accomplie. Certes, la ville avait été détruite et les murs détruits, mais qu'en est-il des pierres et des arbres de poussière qui devaient être jetés dans l'eau? Ça fait partie de la prophétie. Alors, tenez-vous bien, 250 ans plus tard, un jeune homme nommé Alexandre le Grand apparaît sur la scène avec une ambition, celle de conquérir le monde. Il arrive sur le territoire phénicien avec une armée de 50 000 hommes. Et il a demandé à la ville de Tyr sur l'île, donc il était là sur le rivage, « Écoutez-vous les Tyriens là-bas sur l'île ?» Il leur dit, « Ouvrez-nous les portes, on va vous avoir. » Les habitants ont refusé, ils se sont dit, « Mais jamais de la vie, comment tu vas venir nous trouver ?» En plus, ils avaient fait un gros mur autour, ils étaient hyper barricadés, ils ont eu 250 ans pour se préparer là. Ils étaient en sécurité, ils se moquaient en fait de tout le monde. Alors Alexandre savait qu'il n'y avait qu'une manière de prendre l'île. Il allait devoir construire une jetée ou une rampe de terre ferme depuis la côte jusqu'à l'île. De 6 mètres de large et 1 kilomètre de long. La tâche fut extrêmement difficile. Quel matériau allait-il utiliser? Alors il a une idée. Tenez-vous bien. Je vais prendre les ruines de l'ancienne ville de Tyr que Nebuchadnezzar a détruite, et je vais placer tous ces monstres cailloux dans l'eau pour créer la rampe. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et pour compliquer la tâche, les Tyriens se penchaient sur leurs grands murs et bombardaient les Grecs avec des projectiles. Pour protéger ses ouvriers, Alexandre a mis de construire des boucliers géants. Et alors, il travaillait protégé par ses boucliers. De plus, Alexandre a fait construire ce qu'on appelle des helépolès. Alors, je ne suis pas très bon en grec. Mais les helépolès, c'était des tours sur des roues qui mesuraient 5 mètres de haut, qui étaient déplaçables. L'idée était de rouler ces monstres sur cette jetée qui avait été construite pour être au niveau du haut du mur, et une fois devant les murs, laisser tomber un grand pont-levis, ainsi de permettre aux soldats de pénétrer la ville du haut de la muraille. Ce qui est étonnant, c'est que cette histoire vraie et parfaitement historique, c'est qu'Alexandre le Grand, en construisant cette rampe, était sans le savoir en train d'accomplir une prophétie biblique, sans même le savoir. Car la prophétie annonçait que Tyr devait être réduite à néant. Mais qu'en est-il de la dernière partie de la prophétie qui n'était pas encore réalisée? Il est dit que beaucoup de nations viendraient contre elle. Alors, ce n'était pas le cas là. Ah, ce n'est pas une erreur prophétique. Pas du tout, parce que lorsque Alexandre le Grand construisit la rampe, il se faisait régulièrement attaquer par les navires de Tyr des deux côtés. Donc il a très vite réalisé qu'il avait besoin de plus de navires pour protéger ses deux flancs. Alors il se tourna vers les villes qu'il avait déjà conquises et leur demanda de pourvoir des navires. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Des navires de Sidon, de Bablor, de Rhodes, de Macédoine sont venus. Et donc la prophétie a été parfaitement accomplie par l'arrivée de ces navires. Et comme Ézéchiel avait prophétisé, beaucoup de nations se sont dressées contre lui. Alors Alexandre a finalement réussi à prendre Tyr. 18 000 habitants de Tyr furent massacrés, 7 000 autres furent exécutés, 30 000 autres furent vendus en tant qu'esclaves, la ville fut complètement détruite et rasée. La victoire impossible fut réalisée en moins de 7 mois et la prophétie d'Ézéchiel avait été accomplie à la lettre. Oui, mais qu'en est-il de la phrase « La ville ne sera jamais reconstruite ». Philip Meyer, un historien, écrit « Alexandre le Grand a réduit Tyr en un tas de ruines en 332 avant Jésus-Christ. Certes, un petit bourg existe, mais jamais une ville comme elle était à l'époque dans le monde. Il y a une différence entre un village ou un bourg et une ville mondialement connue. Meyer continue et dit que cette ville, Tyr autrefois une grande ville, est maintenant aussi nue que le dessus d'une pierre. Aujourd'hui, Tyr est l'endroit où les pêcheurs sèchent leurs filets. » Jérusalem a été reconstruit 17 fois, mais Tyr jamais. Pourquoi? Parce que il y a 2500 ans de cela, un juif babylonien, Ézéchiel a prophétisé, elle ne sera jamais reconstruite. Et aujourd'hui, étonnamment, l'ancien site de Tyr est un lieu idéal pour une ville. Idéal! Non, là, on pourrait faire un Dubaï, quoi. Franchement, il n'y a pas de problème. Super. Vous allez voir des photos, je vais vous montrer dans deux secondes. L'endroit est magnifique, bien situé avec des sources d'eau fraîche disponibles pour alimenter une telle ville, mais la ville n'a jamais été reconstruite. Laissez-moi vous montrer quelques photos. Alors, voilà la ville de Tyr aujourd'hui. Google Maps. Voici Tyr. Alors, on voit très bien, la jetée qui sort là. Ben, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est Tyr. On voit à gauche. Mais voici comment c'était à l'époque d'Alexandre le Grand et de Nebuchadnezzar. Donc il y avait la côte à droite, l'île à gauche, et donc l'Alexandre a dû construire cette rampe jusqu'à l'île. Donc c'est ce qu'il a fait. Et là, c'est une image de ces héliopolis qu'il a créés pour pouvoir ensuite envahir la ville. Et donc il a finalement réussi à le faire. Et là, on voit très bien Tyr aujourd'hui et Tyr avant. Donc c'était une île. Aujourd'hui, bien sûr, tout a été refait pour que ce soit un grand espace. Mais ce qui est vraiment intéressant, tenez-vous bien, c'est que ça, c'est la Tyr, si on veut, d'origine. Mais regardez, ce coin-là, jamais reconstruit. C'est des ruines. Et on peut aller visiter ces ruines aujourd'hui. Et les voilà. Donc la prophétie a été parfaitement accomplie. Vous êtes d'accord avec moi? On en fait encore un petit peu, là? Le prochain, il est top. Enfin, moi, je trouve. Alors, on continue. Les prophéties sur Jésus. Alors là, mes amis, là, on change complètement de sujet. C'est plus un sujet historique d'une ville. C'est de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que nous aimons Jésus. J'aimerais vous lire Matthieu 5, verset 17, qui dit ceci. « Ne croyez pas, Jésus dit, que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis non venu pour abolir, mais pour accomplir. » accomplir la loi et les prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire, accomplir la loi et les prophètes? Le terme loi et prophète est une référence à l'Ancien Testament. Jésus est en train de nous dire, je suis venu pour accomplir l'Ancien Testament, dans le sens que c'est lui, en tant que Messie, qui a accompli les plus de 300 prophéties ou prédictions dans l'Ancien Testament par rapport au Messie à venir. Donc, l'Ancien Testament dit, un Messie va venir. Jésus dit, c'est moi. Simple que ça. Donc, un érudit va dire, ah, c'est toi? Vérifions. Est-ce que tu colles avec ce que l'Ancien Testament disait par rapport au Messie à venir? Écoutez Jean 5, 39. Moi, je vous dis, dit Jésus, ah non, c'est pas du tout, non, je suis pas dans le bon livre, c'est peut-être pour ça que ça joue pas là. C'est dans Jean 5, 39. Jean 5, 39, Jésus dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc il est en train de parler de l'Ancien Testament. Il dit, l'Ancien Testament rend témoignage de moi. Et verset 46, si vous croyez en Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Wow, ça ne peut pas être plus spécifique que ça. Et dans Luc 24, 44, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Écoutez, nous sommes devant une des revendications les plus extraordinaires qui peut exister. Pourquoi? Car Jésus prétend purement et simplement qu'il est lui-même l'accomplissement de toutes les prophéties dans l'Ancien Testament qui concernent la venue du Messie. Alors écoutez, nous avons ici une des preuves les plus extraordinaires de la fiabilité de la Bible et de son inspiration. Parce qu'il n'y a rien de plus simple à vérifier. C'est mathématique. Jésus dit, je suis l'accomplissement des prophéties. Réponse, l'est-il ou pas? L'est-il ou pas? Pour le savoir, tout ce qu'il faut faire, c'est de dresser une liste des prophéties de l'Ancien Testament qui décrivent le Messie, qui devait venir, et ensuite comparer la vie de Jésus avec la liste, pour voir si ça colle, si ça correspond. S'il y a une erreur, on balaye. Une erreur, on balaye tout. Il serait un imposteur dans ce cas-là, parce qu'il a dit « toutes ». Notez que la plupart de ces prophéties datent d'environ 400 à 800 ans avant sa venue. Alors, l'Ancien Testament contient plus de 300 prophéties sur la venue du Messie. J'aimerais qu'on les regarde tous aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. On va pas les mettre, d'accord? Toutes. Non. Ce sera impossible, bien sûr. Donc, j'ai réduit le nombre à 10%. 30. 30. D'accord? Juste 30. Alors, ce que je veux faire, je vais les lire. Vous ne pas regarder les versets. Vous écoutez. Vous écoutez, c'est tout. Et moi, j'attaque. D'accord? Alors, voici 10% de toutes les prophéties concernant Jésus dans l'Ancien Testament. Je vous donne la prophétie et le verset et on attaque. C'est parti. Qu'il serait né d'une vierge. Ah ouais, non, il faut juste arrêter là et réfléchir un petit peu, d'accord? Waouh. Ésaïe 7, 14. Je continue. Qu'on lui donnerait le trône de David, 2 Samuel 7. Qu'il serait rejeté par les siens, Ésaïe 53, 3. Qu'il serait précédé par un messager, Ésaïe 4, 3 et 4. Qu'il serait né à Bethléem, Michée 5, 1 et 2. Qu'il serait visité par des mages et présenté des cadeaux, Ésaïe 63. Qu'il irait en Égypte pour un temps, Osée 11, 1. Que son lieu de naissance souffrirait le massacre des enfants, Jérémie 31, 15. Qu'il serait une lumière aux nations que par Israël, Ésaïe 42, 1 à 3. Qu'il guérirait beaucoup de malades, Ésaïe 53, 4. Qu'il parlerait en parabole, Ésaïe 6, 9. Qu'il ferait une entrée triomphale à Jérusalem sur un âne, le petit d'une ânesse, Zacharie 9, 9. Qu'il serait adoré par des petits-enfants, Psaume 8, 3. Qu'il serait rejeté, Psaume 118, 22 à 23. Que ses miracles ne seraient pas crus, Ésaïe 53, 1. Qu'il serait trahi par un ami pour 30 pièces d'argent, Zacharie 11, 12. Que l'argent avec lequel il serait trahi serait utilisé pour acheter un champ appelé le potier, Zacharie 11, 13. Qu'il serait un homme de douleur et de souffrance, Ésaïe 53, 3. Qu'il serait abandonné par ses disciples, Zacharie 13, 7. Qu'il serait frappé et qu'on lui cacherait cracherait dessus, Ésaïe 50, 5 à 6, qu'il serait crucifié entre deux malfaiteurs, Ésaïe 53, 12, qu'on lui donnerait du vinaigre à boire, psaume 69, 22, qu'il serait crucifié avec les mains et les pieds percés, psaume 22, 15 à 17, qu'on partagerait ses vêtements par le tir au sort, le psaume 22, 18, qu'il serait encerclé, ridiculisé par ses ennemis, psaume 22, 7 à 8, qu'il aurait soif, psaume 22, 15, qu'il remettrait son esprit entre les mains du Père, le psaume 31, 5, que ses os ne seraient pas brisés, psaume 34, 21, qu'il serait enterré avec les riches, Ésaïe 59, 9, et qu'il serait ressuscité des morts, le psaume 16, 7 à 10. Ça, c'était 30 prophéties sur Jésus. 10%. Alors, il y a deux arguments contre une telle proposition. Jésus, un homme, comme vous et moi, voulait se faire passer pour le Messie, alors il a pris toutes les prophéties qui concernaient le Messie à venir et en a fait une liste et s'est appliqué lui-même pour les accomplir. Alors ça, c'est quand même un argument excellent, à moins que vous vouliez réfléchir. Comment faire pour prédire son lieu de naissance? Comment faire pour prédire et planifier le fait qu'on serait né d'une vierge? Là, il faut le faire. Comment prédire le fait que les enfants seraient massacrés dans la ville natale au moment de sa naissance? Comment prévoir sa manière de mourir par crucifixion? Comment prédire la réaction des gens face à sa propre mort? Comment prévoir sa propre résurrection physique? Ça, on peut balancer. On peut balancer. Certains diront, non, mais c'est un coup de chance. John, c'est de la chance tout ça. C'est un grand coup de peau. Alors, le fait que Jésus a accompli toutes les prophéties est un coup de chance incroyable, dirait-on. Alors déjà, ils font vraiment un très, 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 très grand coup de chance pour naître d'une vierge. Là, c'est très compliqué, ça. Mais parlons probabilité pendant un instant. La probabilité d'un tel coup de chance est statistiquement impossible. Josh McDowell, dans son livre « Evidence that demands a verdict », explique la probabilité mathématique que toutes ces prophéties s'accomplissent en un homme. Qu'un homme accomplisse une ou deux prophéties, ok, mais 300 ? McDowell cite un certain Peter Stone qui, dans son livre « La science parle », montre que l'argument de la coïncidence est rendu caduque par la science de la probabilité. Pour résumer, en premier lieu, Stoner applique la science moderne de la probabilité pour calculer la probabilité d'accomplissement de 8, juste 8 prophéties par un homme, les 8 prophéties suivantes. Qu'il serait né à Bethléem, qu'il entrerait dans Jérusalem sur un âne, qu'il serait trahi par un ami, qu'il serait vendu pour 30 pièces d'argent, que cet argent serait jeté dans la maison de Dieu, qu'il resterait silencieux devant les accusés, qu'il serait crucifié avec des malfaiteurs et qu'il aurait les mains et les pieds percés. Stoller dit, je cite, « Nous trouvons que la chance qu'un homme vive et accomplisse ses 8 prophéties est une chance sur 10 à la puissance 17, donc 1 avec 17 zéros. Écoutez, moi je vais vous donner des chiffres, maintenant j'y comprends rien, absolument rien, je suis nul en mathématiques, mais je vous montre ces numéros, j'espère que quelqu'un va demander à ChatGPT si vous ne me croyez pas, d'accord ? Ben, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, vachement intéressant. Alors voilà, une chance sur 1 avec 17 zéros. Alors Stoner nous aide à comprendre la probabilité. Voici l'Europe. Il dit, ce chiffre est presque incompréhensible, celui qu'on vient de voir. Prenez le pays de la France, la Suisse, la Belgique et la Hollande, pour un total d'environ 700 000 km². Et là, ce qu'il faudrait faire, c'est que vous prenez ces pays à peu près, et vous les couvrez, c'est ce qu'il dit, vous les couvrez, ces 4 pays, de 10 à la puissance 17 de pièces d'un euro, qui fait environ 1 mètre d'épaisseur, selon lui. Maintenant, prenez une autre pièce d'un euro, vous faites une croix dessus, vous mettez un gars dans un avion et vous décollez. En premier, vous brassez vous quelque part et vous prenez la pièce avec une croix dessus et vous la jetez dans le tas. Ensuite, vous brassez le tas. Maintenant, vous lui mettez un bandeau et vous lui dites, t'as une chance pour trouver la pièce. Vas-y. Pas mal, non, comme illustration. Bien sûr, c'est impossible. Alors, la probabilité qu'un homme maintenant accomplisse 48 prophéties, c'est une chance sur 10 avec 157. Alors, 10 à 157, ça ne veut rien dire pour moi, mais ça fait un paquet de zéros, quoi. Or, Jésus en accomplit 300. Alors, ça fait quand même réfléchir tout ça. Alors, quelqu'un a fait une comparaison avec un singe. Et le psaume 23, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Pour mettre ceci en perspective, on prend l'illustration d'un singe. Selon les règles de la probabilité, combien de temps est-ce que ça prendrait pour un singe, avec bien sûr un clavier adapté à lui, combien de temps ça lui prendrait pour taper au hasard le psaume 23 en incluant 603 lettres, numéros, versets, les grandes lettres, les petites lettres, les espaces, tout le reste, tout, de manière parfaite et sans erreur. Pour taper correctement le psaume 23, qui contient 603 lettres, demanderait 50 à la puissance 603, selon cette statistique, divisé par, je ne sais même pas pourquoi, 31 536 000, qui est égal à 9,552 fois 10 à la puissance 1016 années, ou environ 122 milliards d'années. Alors bien sûr, Jésus n'est pas un singe. Mais de nouveau, je me suis dit, tiens, c'est vraiment juste tout ça. Alors j'étais sur ChatGPT, et j'ai posé la question suivante, ChatGPT, combien de temps faudrait-il pour un singe de taper parfaitement le psaume 23 par hasard? Et ChatGPT m'a répondu, ça qui est dingue. Alors, voici ce qu'il répond. Bien sûr, il est païen, bien sûr, c'est un ChatGPT non chrétien. Alors, il compare la réponse avec l'âge de l'univers. Alors, nous, bien sûr, on a une réponse très différente. Mais voici ce qu'il dit. L'âge de l'univers, 1,38 fois 10 fois 10 années. Singe tapant le psaume 23, 10 avec un petit chapeau, ça, je ne sais même pas ce que ça veut dire, 843 années. C'est environ 10 petits chapeaux, 833 fois plus long que l'existence de l'univers. Voici ce que ChatGPT nous dit. Alors ensuite, il résume, heureusement. Ça fait donc une chance de 1 plus 843 zéros derrière. Donc, ChatGPT dit un singe pourrait taper pendant une durée inimaginable, bien au-delà de la durée de vie de l'univers, pratiquement jamais avant de produire le psaume 23 parfaitement par hasard. Là, je cite ChatGPT. Alors, je me suis amusé à vous montrer de quoi ça a l'air. Quand on fait ça, c'est tous les zéros derrière le 1. D'accord? Ça, c'est la probabilité. Ça veut rien dire pour moi, mais pour vous, je suis sûr que vous êtes très bon en mathématiques. Ça, c'est la probabilité qu'un singe tape par hasard parfaitement le psaume 23. C'est le nombre d'années qu'il faudrait. Moi, j'ai bientôt 69 ans. Alors, comparé à ça, j'ai l'impression que ça, c'est très, 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 très long. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Simplement parce que Jésus lui a accompli parfaitement 300 prophéties dans la Bible, à la lettre. Alors je vous laisse juger. Est-ce que la Bible est inspirée ou pas? Alors je termine avec ça. Deux points vraiment très rapides. Par son influence sur la civilisation. Là on a vu vraiment les statistiques et tout ça, mais maintenant pensez un petit peu à l'influence de la parole de Dieu sur le monde. Écoutez, déjà, chaque livre que vous possédez sur votre étagère ont la date de Jésus-Christ marquée dedans. C'est quand même marrant, ça, vous ne trouvez pas? Notre ère est marquée par la date de la naissance de Jésus. L'art, promenez-vous dans le Louvre. Allez au Louvre. Non, mais on a l'impression que le Louvre, c'est l'histoire biblique en peinture. C'est incroyable. L'art influencé par Jésus-Christ est tout simplement prodigieux. Les premiers peintres étaient des moines, les premières peintures étaient religieuses. Promenez-vous dans le Louvre. Et puis le christianisme et l'art, Léonard de Vinci, Rembrandt, Raphaël, Michel-Ange, Caravaggio, moi je trouve super Caravaggio. La plupart des jours fériés dans le monde sont chrétiens dans leur origine. La musique a été influencée par Jésus de manière étonnante. On a Bach, Mendelssohn, Brahms, Beethoven, Handel, Haydn. Le cannibalisme a pris fin grâce au christianisme. L'esclavage a pris fin grâce au christianisme. Et les éléments sont longs. La Bible également inspirée, la plupart les lois des pays occidentaux qui défendent le droit de la personne humaine, prônent l'égalité et la justice. Beaucoup de lois découlent du décalogue, donc des 10 commandements, par exemple, allez faire un tour de la réforme. Waouh! Et vous irez devant le mur des réformateurs. Incroyable! Et là, vous allez voir comment la réforme et donc la parole de Dieu a influencé l'Allemagne, la Hollande, la Suisse, la France, la Grande-Bretagne, l'Écosse, les États-Unis, la Hongrie. Non mais, l'effet est incroyable! Et aller au musée Patek Philippe, je fais pas de la pub pour la montre, mais elle est vraiment bien cette montre, mais elle est très très chère, d'accord? Mais il y a un petit panneau quelque part qui dit, les Huguenots ont apporté le savoir-faire de la montre en Suisse. Ouais, pour les Huguenots, ouais, pour la France, moi je trouve ça absolument génial, d'accord? Non mais tu vas voir, l'impact de la réforme et donc de la parole de Dieu est incroyable, incroyable, éternel. Et je termine avec ça, vraiment là, c'est vraiment pour vous livrer. Et le pouvoir de transformer les vies. Écoutez, franchement, mes amis, pourquoi vous êtes là? Pourquoi est-ce que vous avez sacrifié vos dimanches matins pour venir écouter quelqu'un et chanter quelque chose? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Jésus-Christ a transformé votre vie. Et votre vie, maintenant, elle n'est plus la même. Et vous devez louer le Seigneur, vous voulez louer le Seigneur, vous voulez être des chrétiens, vous voulez servir, mais ça, ça vient parce que votre cœur a été transformé par Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Moi, c'est pareil. Moi, la plupart de vous connaissez mon histoire, mais moi, j'étais hippie dans les années 70, je suis parti en Inde avec un sac à dos, et j'ai rencontré Jésus-Christ à New Delhi un jour. Et je fais jusqu'à là et tout, et je me dis, mais c'est incroyable, un missionnaire hollandais me parle de Jésus-Christ, Jean 3,16, je me convertis, ça fait 40 ans que je suis pasteur. Non, mais il y a un truc qui s'est passé là, je rêve pas, je suis un gars pied sur terre. Ma vie a été complètement transformée, comme la vôtre. Et ça, mes amis, c'est un argument incroyable. Et pourquoi tous ces chrétiens sont morts pour leur foi? Parce que quelque chose avait été totalement transformé dans leur vie. Et mes amis, et on revient à la Bible, elle est où là? Quelqu'un là? J'ai vu quelqu'un sortir en courant avec. Non, c'était pas ça. Ah non, là, là, d'accord, d'accord. Cette Bible, écoutez, pourquoi cette Bible, elle est tellement incroyable? Parce que ceux qui ont cru, comme John Knox, que la Bible était inspirée de Dieu, voulaient la mettre dans la langue du peuple. Donc, je crois que vous savez quelle est mon opinion sur ce sujet, d'accord? Moi, je crois que la Bible est vraiment inspirée, et j'espère que c'est votre cas aussi.